Canot présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Toujours amoureux de Jean-Yves, mais il fallait que j'assouvisse mes besoins. La nuit, je retrouvais toujours les mêmes gens, errés comme des fantômes. Ne m'intéressaient pas. Moi, je voulais de l'humain. Un après-midi, après mon travail, j'allais vers les quais. je vis que dans une pistière, il y avait un jeune homme de taille moyenne, bien fait, avec un joli visage, et habillé d'un costume blanc. J'hésitais pas, j'entrais dans la pistière et me mis à côté de lui. Il était en train de se laisser masturber par un homme à côté de lui. Cela m'excita. Alors je me mis à lui caresser les fesses. Le jeune repoussa ma main. Je la remis. Puis le jeune se dégagea de notre emprise et sortit. Cela m'avait beaucoup excité. Je le suivis. Il allait dans les rues. Moi, j'attendais qu'il s'arrêtât pour l'aborder. J'étais très excité et désirais le toucher. Tout en marchant, il tourna la tête vers moi. Puis, se mit à courir. Je courais aussi. C'est long dans les rues. Au moment où nous sommes trouvés dans la rue de Jean-Yves, il est rentré dans le passage de son allée. Je ne sais pourquoi, mais lorsque je l'ai vu entrer dans cette allée, je me suis dit que ce devait être l'invité de Jean-Yves. Semaine suivante, je reçus une lettre de Jean-Yves me disant que je pouvais aller le voir samedi. Samedi, j'allais frapper chez lui.
Bonjour.
Bonjour.
Une fois que nous sommes assis à notre place habituelle, il me dit « Je sais que ça a dû te paraître long cette semaine, je comprends. Ça a dû te gêner de savoir que j'étais avec quelqu'un, qu'il y avait quelqu'un chez moi. Mais tu sais, il n'y avait pas de quoi. Ça s'est pas très bien passé. Nous ne disions rien, aucune conversation. La nuit après la première nuit, il me repoussait en me disant qu'il avait trop chaud. Pendant que je travaillais, je ne savais même pas ce qu'il faisait. Lorsque le soir, je lui demandais ce qu'il avait fait, il me répondait même pas. Un après-midi, il est accouru à mon atelier pour me dire qu'un vieux avait essayé de le violer. J'étais dans un état, tu ne peux pas savoir. Alors je l'ai ramené chez lui vendredi soir. Voilà. Un véritable échec, comme tu vois. Maintenant, je savais que le jeune que j'avais touché dans la pistière était bien l'ami de Jean-Yves. Je me disais que ce jeune homme-là n'était pas amoureux de lui, qu'il était venu chez lui pour avoir le gîte et le couvert gratis et passer quelque temps en ville pour s'amuser, faire des rencontres, puisque dans ce bled, il ne devait pas y avoir grand-chose. Je me disais, pauvre Jean-Yves, et dire que j'ai failli me payer son jeûne, et le trouvait bien naïf. Moi, je voyais la naïveté de Jean-Yves avec le jeûne, mais je ne voyais pas la mienne avec Jean-Yves. Et les jours passaient. Jean-Yves allait toujours chez le dentiste. Un soir, il me dit « J'ai bientôt fini avec le dentiste. Ouf ! Mais malheureusement, il va falloir payer. Et la somme va être dure. » Une semaine plus tard, je reçus une lettre de Jean-Yves. Qui me disait « Le dentiste me demande la somme de tant de francs. Je vais être obligé de faire ce que tu appelles quelque chose de pas bien. »
Et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève.
J'en avais le souffle coupé. Je tremblais. Je savais que ce que cela voulait dire. Il me menaçait de se prostituer si je ne lui donnais pas la somme. J'étais furieux. Je me mis à pleurer et à crier « Salaud, salaud !» Je pleurais. Je ne voulais pas qu'il se prostitue. Et en même temps, je me disais que c'était un fumier de le faire chanter comme ça. Pas une seconde, j'ai eu l'idée de le laisser tomber. Non. Malgré la fumisterie qu'il me faisait, je voulais lui donner ce qu'il me demandait, car il m'était insupportable de le voir faire la pute. Pourtant, quelque chose me disait qu'il en était une en se comportant comme ça, et qu'il me prenait pour un moins que rien. Mais l'image insupportable qui se prostitua et effaça tout. Alors je pris la somme qui était importante et l'a mis dans une enveloppe. Mais je voulais être discret et correct, ne pas lui donner l'argent comme ça, la main dans la main. Et je suis parti. Je marchais d'un bon pas, les larmes aux yeux, en me disant que c'était un salaud. Je montais chez lui, les jambes tremblantes, pleurant. Frappais à sa porte. Pas de réponse. Mis l'enveloppe sur la porte. Et parti. J'étais effondré. Une fissure s'était faite entre lui et moi. J'aurais voulu me défaire de lui, ne plus penser à lui. Mais j'étais pris. J'en étais incapable. Cela m'aurait fait trop de mal. Lorsque je l'ai revu samedi soir, j'étais en colère contre lui et lui avait sa superbe. Il me dit une fois que nous étions assis. « Je te remercie pour l'argent. » J'ai eu le courage de lui dire. « Tu aurais pu m'écrire cela d'une autre façon. Tu n'avais pas le droit de me dire ça. » Il me dit en criant. « J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Et tu n'as rien à me dire. » Je ne dis rien. Mais j'étais très en colère. Il me dit. « Merci tout de même. » Puis, nous sommes restés un moment sans parler. Ensuite, il a dit, « Allez, Pierre, ne fais pas la tête. Tu veux boire ? Non, merci. » Puis, nous avons parlé de choses et d'autres, de cette nouvelle attraction qui était le cinématographe. Mais quelque chose s'était cassé en moi. Le temps passait. Et malgré tout, je lui donnais quelques billets à la fin du mois. À la fin de chaque mois. Et oui. Un soir, il me dit, avec Philippe, c'est fini. Tu en souffres ? Non, à la fin, il me prenait pour une serpillière. Pendant quelque temps, il n'eut pas d'amis. Un soir, il me dit, « Écoute, Pierre, tu as été très gentil avec moi et j'aimerais te faire un cadeau. J'ai bien réfléchi et je sais ce qui te ferait plaisir. » Je lui dis, « Merci. Voilà, je vais éteindre la lumière et tu feras tout ce que tu voudras avec moi. » Je ne m'attendais pas à cela. Tu es d'accord ? Je n'osais pas dire oui, car je me disais qu'après, il ne voudra plus me voir. J'aimerais mieux que l'on reste comme ça. Je lui dis, c'est-à-dire que j'ai peur de perdre ton amitié. Non, pourquoi ? C'est moi qui te le propose. Allez, oui, hein ? Allez. Je ne sais pas comment je vais réagir, mais l'on verra bien. Allez, j'éteins. Il a éteint la lampe de chevet qui était à côté de lui. Tremblant, je m'approchai de lui et tendis les mains. Tremblant, il me dit, « Attends. » Il éteignit sa cigarette. Je me mis à lui baiser le visage et à lui caresser le corps. Il se dégagea, se déshabilla, sauf le slip, et resta assis. Alors excité, je lui baisai le corps, les cuisses, et arrivai vers le slip. Je le touchai, sentis son sexe chaud et raide. Le baisait par-dessus son slip, descendait tout doucement le slip et lui suçait les poils, puis prit le sexe, le mit dans ma bouche, en ayant dans ma main les couilles. J'étais surpris qu'il eût un sexe si menu mais bien fait. Je suais et lui aussi. On était mal à l'aise. Il me dit, on va de l'autre côté. Oui. Il s'est levé et je l'ai vu. J'ai vu ce grand corps blanc tout nu dans le noir, éclairé par la lune. Je le suivais. La chambre était dans le noir complet. Il s'allongea, moi aussi, et le cherchait à tâtons. Je le retrouvais et me mis à le sucer en lui caressant les fesses que je trouvais larges et rugueuses. Et de l'autre main, j'avais ses couilles. Cela me décevait un peu que ses fesses soient si peu douces. Au bout d'un moment, il me dit « Tu veux que je jouisse ?»« Non, pas encore. » Un peu plus tard, je l'ai laissé jouir. Il s'est nettoyé avec une serviette. Nous sommes assis sur le rebord du lit. Il m'a donné un baiser sur la joue. Il s'est rhabillé dans le noir et nous sommes retournés dans le salon. Nous sommes assis. Il a éclairé. Il m'a dit, alors, j'ai souri. Tu ne dis rien ? J'ai ri. Tu vois, il ne faudra jamais que l'on en parle aussi, hein ? Puis, il m'a servi à boire. Sur le chemin du retour, j'étais bizarre. J'arrivais pas à croire ce qui m'était arrivé. Je me dis, après cela, je peux mourir. Oui, je peux mourir. La semaine suivante, j'allais chez Jean-Yves en me disant qu'il allait peut-être se passer la même chose. Mais non, rien. Et nous n'en avons pas parlé. La semaine d'après, dans la soirée, il me dit. Si tu veux, on peut aller de l'autre côté. Tu veux ? J'osais rien dire. Dis-le maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Remarque, si tu ne veux pas, c'est pour toi, hein ? Bon, allez, viens. Et nous nous sommes levés pour aller dans la chambre. Désormais, nous terminions nos soirées dans la chambre. Toujours dans le noir, il ne bougeait pas et je se laissais faire. Quittait tout sauf son slip. Et il sortait de la chambre avec un peignoir nu dessous. Nous buvions un dernier verre et je partais. Avant de partir, je l'embrassais une dernière fois. J'étais tout excité de l'avoir tout près de moi, nu sous son peignoir. Cela me redonnait envie. Dans la chambre, j'étais trop excité pour ressentir vraiment du plaisir et voulais trop bien faire. Au bout d'un moment, je n'en avais plus envie, mais je continuais pour lui faire plaisir. Le temps passait. J'étais satisfait. J'avais toutes les semaines ce que je désirais. Un soir, il me dit, « Ce soir, nous n'irons pas de l'autre côté. J'en ai pas envie. » Cela me déplut, mais je ne dis rien. Les autres soirs, la même chose. Cela m'énervait. Durant toute la soirée, je me disais, est-ce que nous allons aller nous n'allons pas aller de l'autre côté. Je rentrais furieux. Je pensais qu'il devait ce plaisir. Après 3 mois, toutes les semaines, on avait été de l'autre côté. Et puis, d'un coup, d'un seul coup, plus rien. C'était dur. Un soir, il me dit, j'ai rencontré un jeune. Il aimerait me voir, mais sa famille l'en empêche. Tu ne peux pas savoir comme cela m'énerve. Il a 18 ans, beau, j'aime tout en lui, même les poils de ses fesses. Et pourtant, je n'aime pas les poils, mais les siens, oui. Nous avons fait l'amour un dimanche après-midi. C'est lui qui a voulu me connaître. Je pense à lui sans arrêt. Je ne mange même plus. J'étais triste, très triste. Et lui qui me parlait de son ami. Pourtant, il savait que je l'aimais et que cela devait me faire du mal. Je souffrais beaucoup. Et lui aussi. Il maigrissait, ne mangeait plus, ne faisait plus rien. Je me disais qu'un jour ou l'autre, cela allait passer, qu'il allait l'oublier. Mais le temps passait. J'étais inquiet et énervé, parce qu'à cause d'un merdeux, on n'allait plus de l'autre côté. Mais je me remontais le moral en pensant à ce qu'il m'avait dit, qu'il se servait des jeunes et après qu'il les rejetait. Moi, je serais toujours là. Et puis, j'avais les clés et je lui donnais de l'argent. C'était 2 gros avantages par rapport aux autres. Je me disais aussi qu'il était excité parce qu'il avait envie de coucher avec le jeune. Mais une fois que la chose serait faite, tout redeviendrait dans l'ordre. Un soir, il me dit, je l'ai revu, nous allons vivre ensemble. J'étais surpris et inquiet. Il viendra lundi ici. Nous ne reverrons plus. Mais vous et Pierre, rien ne changera entre nous. Mais il faudra faire attention. Il ne sait pas ce qu'il y a entre nous. Tu devras être prudent. Mais rien ne changera. J'étais triste. Mais lui était tout excité et heureux. Il me dit, il faudra être gentil avec lui. Avant de partir, il me dit, tu as compris? Il vient lundi. Alors ne viens que lorsque je te le dirai.
Au revoir. Au revoir.
Je suis parti tristement, furieux, en me disant, il dit que rien va changer entre nous et je ne peux pas aller chez lui. Est-ce qu'il voudra que l'on recommence à avoir des rapports ensemble? De toute façon, je ne lui donne rien tant qu'il est avec l'autre. J'attendis tristement qu'il veuille bien me recevoir. 15 jours plus tard, je reçus une lettre me disant que je pouvais aller samedi. Là, il était tout excité, heureux. Et nous sommes quittés sans aller dans la chambre. Il était tellement excité qu'il n'a même pas vu ma tristesse. La semaine suivante, il était moins heureux. Il me disait, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un. Il touche tout, regarde tout, ouvre mon courrier, fait des réflexions. Je n'aime pas ça. Le matin, il m'énerve. Je suis obligé d'attendre pour aller dans la salle de bain. Il faut qu'il chauffe son lait. Ça m'énerve. Et lorsqu'il est à la maison, il reste assis à manger des bonbons. N'achète rien. N'aide pas. Des fois, il sort. Il ne dit même pas où il va. J'en ai marre. J'étais heureux et me disais que ça n'allait pas durer. La semaine suivante, il était beaucoup mieux. C'était le jour du mois où normalement je lui donnais sa somme. Là, je lui dis, je ne te donne rien. Vous êtes deux, je ne veux pas payer pour deux. Il ne me dit rien. À chaque fois que j'allais chez lui, j'étais excité, car je m'attendais que j'aille de l'autre côté. En sortant de chez lui, j'étais tout dans tous mes états. Un soir, avant de le quitter, il me dit, Pierre, je suis très ennuyé, j'ai beaucoup de choses à payer. J'étais très excité et je lui dis, moi aussi, à chaque fois que je viens chez toi, je ne sais pas si l'on va de l'autre côté et si on n'y va pas. C'est très pénible pour moi de ne pas le savoir. Et nous nous sommes quittés. Le lendemain, je trouvais une lettre de Jean-Yves. Viens me voir samedi soir. Nous serons libres de faire tout ce que tu veux. J'y allais, décidé, heureux, mais aussi avec un peu d'amertume. Ce n'était pas par amitié ou plaisir qu'il allait être à moi, mais par obligation. J'en avais honte. Une fois chez lui, il me dit, « Bon, eh bien, puisqu'il le faut, on va le faire. Viens. » Et nous sommes allés dans la chambre. Je n'en avais plus envie. Une fois allongé, il me dit, s'il n'y a que ça qui t'intéresse, vas-y. Mais fais vite, je ne veux pas qu'ils nous surprennent. J'étais honteux, je ne voulais plus.
Un peu d'espoir, et dans mes yeux, sous le ciel noir, la joie se lève. Un peu d'espoir, et toi, un peu d'amour.
Et je le fis. Voilà, tu as fini. Tu es content? Non, je n'étais pas content et souhaitais que nos relations redeviennent comme avant. Mais je ne pouvais pas, car j'avais goûté à son corps. Je me disais que c'était de sa faute. Je n'avais pas fait le premier pas, j'aurais pas osé le faire. Une fois qu'il s'était habillé, il m'a fait partir. Avant de fermer la porte, il me dit, « Si tu as un billet à me remettre, apporte-le mardi après-midi, il n'est pas là, et cache-le sous la lampe de chevet.
Au revoir.
C'est ce que je fis. Puis, nous sommes revus. J'étais toujours pris entre mon désir et la honte. Les soirées se terminaient sans que l'on le fasse l'amour. Malgré ma honte, cela m'énervait de ne plus pouvoir la faire. Les soirées devenaient des corvées pour lui. Je sentais obligé de me recevoir. Je ne savais jamais si je pouvais lui donner de l'argent. Mais je savais qu'il me recevait et que c'était devenu une obligation. Il cherchait à m'amadouer et de me faire passer de l'amant à l'ami. Mais il sentait de la réticence. Sa vie avec son ami n'était pas facile. Il dépensait beaucoup et mon aide l'avait bien arrangé. Lui, ça ne l'aurait sûrement pas gêné de faire l'amour avec moi comme avant. Mais il avait peur d'être vu par son ami, comme il avait la clé et qu'il voulait entrer chez lui comme il voulait. Les jours passaient, triste. J'aurais aimé, souhaité laisser tomber cette histoire. Mais je ne pouvais pas, car je l'aimais toujours. Des fois, j'étais pris de rage et voulais rompre. Mais je ne pouvais pas. Je vivais avec une espèce de fièvre. Fièvre folle même. L'amour rend illogique et abaisse même l'homme. Il est capable de n'importe quelle folie. Mon cerveau, des fois, se rebellait et me disait qu'il fallait que je rompe avec lui. Et il me demandait ce que je faisais avec lui. Il disait de laisser tomber. Mais non, je retournais le voir et continuais à l'aimer. Lui qui m'avait si maltraité et qui s'en comportait avec moi comme une pute. Même si je ne pouvais plus aller chez lui l'après-midi, j'allais tout de même, malgré moi, vers chez lui. Je n'y pouvais rien. Mes pas me menaient toujours là-bas. J'étais incapable d'aller ailleurs. Et si je n'y allais pas, cela me donnait le cafard. Je souffrais de savoir qu'il était avec l'autre et faisait l'amour avec lui. Moi, j'étais incapable de le faire avec un autre que lui. Je continuais à lui donner chaque mois son argent, mécaniquement, sans y passer. Et lui ne me faisait plus aller de l'autre côté. Ça lui paraissait normal. De toute façon, c'est lui qui devait décider si on devait ou non y aller. Je devais surtout ne pas faire un geste vers lui. Que je souffre ou non, quelle importance, c'était lui qui décidait. Il trouvait normal qu'il me traite comme un ami et que je l'aide, puisqu'il en avait décidé et ne voulait pas voir ma peine. Chaque fois que je sortais de chez lui, j'en étais malade. Malade de voir comme il me traitait, comme si tout était décidé à l'avance, que je sois comme ça. J'étais énervé de ne pas avoir été dans sa chambre. J'aurais voulu tout laisser tomber, mais ma tête était malade. Je maigrissais, mangeais de moins en moins. Je dormais mal et étais incapable de penser à autre chose. Je n'allais plus aller chez mes parents, la peur qu'ils me posent des questions. Les jours passaient ainsi. Des soirs, d'un coup de tête, pour montrer que j'étais encore libre, je sortais et allais à un spectacle. La plupart du temps, c'était au cinématographe. Ces histoires muettes me menaient hors du temps. J'aurais aimé qu'elle soit passée dans un silence complet, sans piano. Mais au bout d'un quart d'heure, mes pensées revenaient. Un matin, après une nuit d'angoisse, je décidai d'en finir. Mon cerveau se révoltait et me forçait à me révolter. Je me levai. Décidé de faire le tout pour le tout. Je ne voulais plus de cette ambiguïté. J'ai pris un papier. Et écrivit, si tu veux que je continue t'aider, il faudra que l'on refasse toutes les semaines ce que l'on faisait. Je me disais que j'étais dans mon droit et que c'était injuste ce que je subissais. Mais quelque chose me disait que ce n'était pas bien, que je le traitais comme une pute. J'en avais honte, j'étais triste. Je pleurais la fin d'un amour pur. Mais c'était de sa faute aussi. C'était lui qui avait commencé. Alors je pris la feuille et allai la porter chez Jean-Yves. Il m'avait dit que son ami était absent ce jour-là. Je pouvais aller chez lui. Il croyait que j'allais lui déposer de l'argent sous la lampe, mais déposait le mot et sortit. Les dés étaient joués. J'avais du remords et me disais que j'avais mal fait. J'avais peur de le perdre. Je l'aimais toujours. J'étais tellement inquiet que j'allais vers chez lui pour lui demander pardon. J'étais vers chez lui, je le revis qui revenait de son travail. Il me vit, me prit par la manche et me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je ne dis rien. Il était furieux. J'ai lu ta lettre, et Laurent aussi. C'est lui qui l'a trouvée. Il a fait une scène. Je lui ai dit que je ne te reverrai plus, et je ne veux plus te revoir. J'étais tout tremblant, les larmes aux yeux. J'avais perdu. Je l'avais perdu par ma faute. Je lui dis, non, je ne veux pas. Je te demande pardon. Il était trop tard. Il me dit, c'est trop tard. Va-t'en. Et il est entré dans son allée. Je le suivais. Il marchait d'un bon pas. « Laisse-moi, va-t'en !» Nous montions les escaliers. Il ouvrit la porte. J'étais derrière lui, tremblant, triste. Je le poussais pour entrer. Je ne savais plus ce que je faisais. Nous sommes retrouvés dans le salon. Il me dit « Va-t'en, il veut venir. Il ne faut pas qu'il te voie ici. » Je lui dis « Nous reverrons. Non, plus jamais. » Va-t'en, je ne veux plus te revoir. J'entendis derrière moi quelqu'un qui était entré. C'était son ami qui s'est mis près de Jean-Yves. Alors Jean-Yves devint furieux. Fiche-moi la paix, te dis-je. Va-t'en, je ne veux plus te revoir. Ne viens plus. Non, je ne veux pas. Alors Jean-Yves prit une cravache qui se trouvait accrochée au mur et me fouetta avec. Je ne cherchais pas à me défendre. Cela me faisait très mal. Mais j'avais plus de mal que ce soit lui qui me le fasse. Et je ne pas car je trouvais cela injuste. Son ami l'excitait. Vas-y, vas-y, vas-y. Au bout d'un moment, je tombais à terre sous les coups. Il continuait à me battre. J'étais rouge. Il était rouge. En tombant, je me fis mal à mon petit doigt de la main gauche. Il tapait, tapait, tapait. Il était furieux, rouge. Tapait, 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 tapait. Puis il me dit, fiche-moi le camp et que je ne te revois plus. Je me relevais comme je pouvais. J'étais endolori, mes doigts me faisaient mal. Je les ai laissés. Dehors, j'avais honte. Je me disais que pourvu que personne ne sache, et j'avais de la haine sur l'injustice que l'on m'avait faite. Moi qui l'avais aidé durant tous ces mois, voici comment il me traitait. Salaud, salaud, salaud. Rentré chez moi, je me couchais. J'avais mal à la tête, aux doigts, mes vêtements étaient sales, sales de la poussière du parquet. Je passais la nuit en me disant que tout était fini. J'avais mal de partout, pleurais de l'avoir perdu. Le lendemain, en me réveillant, mal à la tête, au dos, courbaturé, je me levais. Me préparais pour aller à mon travail. J'avais envie de mourir. Tout était fini. Le lendemain, à mon travail, j'étais assis à mon bureau. Tout à coup, je vis tout blanc, tourner de l'œil et tomber.
Dans mes yeux, la joie de On fait de la vie.
Je restais quelques minutes sans connaissance, puis revenais entouré de mes collègues. Le retour me ramena à la vie. J'étais redevenu normal, plus de fièvre, fini Jean-Yves. C'était enfin fini. Je me relevais. Et décidai de prendre un peu de repos chez moi. Dehors, j'étais bien, j'étais libre, j'étais moi-même. Ouf, enfin fini. Une fois chez moi, je m'allongeais pour dormir. Au bout d'un moment, en repensant à cette histoire, j'étais furieux contre moi-même. Comment avais-je pu agir aussi bêtement, dépenser autant d'argent pour cette pute ? Comment avais-je pu être amoureux d'une personne aussi insignifiante, qui était à peine belle, qui n'était pas du même milieu que moi, qui vivait dans un quartier minable? Il avait osé se moquer de moi, pris pour un minable, lui, le rien. Plus je pensais à cela et plus j'étais furieux contre moi-même. Puis, ça s'est apaisé, je n'y ai plus pensé. Tout était oublié, je voulais aller de l'avant. Dès le lendemain, j'ai repris ma vie. Je me sentais libre, libre. Mon esprit flottait. Le soir, après le travail, je voulais marcher, voir du monde. Et je retrouvais mon appartement que je n'avais plus aimé. Je le retrouvais avec plaisir et je me mis à l'aimer et même à m'y trouver bien. Tout était fini, bien, bien fini. Le soir, je sortais ou allais au restaurant. Des fois aussi, je retournais sur les quais, mais je ne trouvais rien. Le temps passait ainsi.
Je veux parler des autres merlans, et Dieu sait s'il était pour Jean. Voilà pourquoi chaque dimanche, je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. À la fois, chaque dimanche, je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais.
Un soir du mois de février, sent-il lui-même le temps de crier, le grand Julot l'a descendu, à la suite d'un malentendu. Et c'est le couteau qui me l'a ravi, je peux dire qu'il a brisé ma vie, car c'est un coup pour Masséna, au coin du boulevard Masséna. Voilà pourquoi chaque dimanche, je ne remets plus ma robe blanche.
pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais. Voilà pourquoi chaque dimanche je ne revais plus ma robe blanche pour me promener.
Radio Canyon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime, dont c'était la 12e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement,